Il y a tout juste 25 ans, le 21 décembre 1685 pour être exact, un homme nommé Ferderberg, après une semaine passée en voyage d'affaires, réalisa soudain qu'il n'avait pas pensé à acheter un seul cadeau de Noël pour sa famille et ses amis. Plus encore, à l'issue de ce voyage, il ne lui restait plus en tout et pour tout que 80 cents, deux talons de billets de théâtre et une chaussure droite. Alors il découpa des morceaux de papier cartonné à la dimension d'enveloppe et écrivit sur chacune des cartes quelques pensées relatives à la saison. Se sentant encore un peu sonné par son périple, il pensa qu'il serait joli de faire rimer ses pensées, même si, comme il l'admit volontiers lui-même, avec un sourire modeste, « je ne suis pas poète ». La carte que reçut sa tante portait l'inscription suivante. « Juste une petite pensée pour un joyeux Noël et une très bonne année. » Il fut tellement satisfait de sa trouvaille qu'il se contenta de la recopier sur les autres cartes. Puis, il se prit à son propre jeu et, dans un élan d'enthousiasme, alla jusqu'à dessiner un brin de houx sur chaque carte. Il les posta la veille de Noël et découvrit qu'il lui restait encore 28 cents en poche. Cet homme, ce Ferderberg, est aujourd'hui recherché dans 32 États du pays au même chef d'accusation, création de la menace des cartes de vœux. Son idée frappa en effet aussitôt l'imagination du public, et dès le Noël suivant, tous ses parents et amis envoyèrent des cartes à leurs parents et amis, car, prenant pour argent comptant le vieux mensonge selon lequel ce n'est pas tant le cadeau qui compte que l'intention, blablabla, ils eurent l'impression qu'il ferait plus plaisir aux gens en leur adressant un geste amical qu'un vilain petit cadeau. Certes, pendant un temps, cette nouvelle coutume m'apporta un réel soulagement. Mais la situation ne tarda pas à devenir incontrôlable. De grandes entreprises fabriquant des cartes de vœux poussèrent comme des champignons à travers tout le pays, s'arrachant à prix d'or les sites industriels jouxtant une voie ferrée dédiée aux fret pour y installer leurs usines. Des millions et des millions de cartes furent imprimées et des millions de personnes se mirent à se les envoyer les unes aux autres. Aux environs du 15 décembre, la nuée néfaste se propagea. Et telles des sauterelles, les enveloppes commencèrent à s'abattre sur la poste. 75 000 facteurs supplémentaires furent embauchés. Mais, en fin de compte, le gouvernement dut se résoudre à réquisitionner tous les hommes de moins de 25 ans qui n'avaient pas les pieds plats. Or, même avec ces renforts, toutes les cartes de vœux de Noël ne purent être délivrées avant le jour de l'an. Et entre-temps, le flot de cartes de vœux du nouvel an s'était déversé. Car tous ceux qui en avaient reçu pour Noël de la part de gens à qui ils avaient omis d'en envoyer se précipitèrent pour acheter les cartes de vœux de bonne année afin de les leur poster la semaine suivante, comme si c'était ce qu'ils avaient prévu de faire depuis le début. Il devient bientôt impossible de lire toutes ces cartes, et finalement même de les ouvrir. De grosses piles d'enveloppes fermées recouvrirent les bureaux et les tables des salons dans tout le pays. Certains citoyens, parmi les plus riches, firent construire devant leur maison des glissières dans lesquelles les facteurs balançaient les cartes qui atterrissaient alors directement dans le fourneau. En revanche, les gens plus pauvres, qui n'avaient pas les moyens de convertir par ce procédé leur courrier en combustible, incapables même parfois de se déblayer un passage reliant leur porte d'entrée à la rue, finirent souvent par mourir de faim avant que des provisions ne parviennent jusqu'à eux. L'hiver 1927 fut surnommé l'hiver de la mort rouge, car des familles à travers tout le pays furent ainsi submergées d'enveloppes et périrent avant qu'on puisse leur apporter de l'aide. Dans certaines villes, des incendies se déclenchèrent accidentellement dont les conséquences furent trop horribles pour qu'on les relate ici. Mise au jour d'artefacts d'une valeur scientifique inestimable. Des archéologues qui effectuaient des fouilles dans le Middle West en creusant à travers des monticules d'enveloppes pétrifiées ont récemment mis au jour des documents qui nous apportent un éclairage scientifique sur la nature de ces objets d'art. Le motif, qui semble avoir été le plus populaire, est une cheminée à laquelle sont suspendues des chaussettes, avec le slogan, à l'évidence satirique, « Joyeux Noël et bonne année ». Les chandelles étaient également fort appréciées comme éléments décoratifs, les chandelles et les cloches. Lorsque des figures humaines sont représentées, elles sont en général très déplaisantes. Des hommes petits, gros et barbus, vêtus de rouge, de jeunes enfants en pyjama portant des bougies allumées avec une gaieté agressive, des diligences pleines à craquer de voyageurs, des balades en traîneau et des descentes en luge, enfin des musiciens de rue cassant les oreilles des résidents avec leurs chants de Noël. Le texte des légendes était d'ordinaire rédigé dans une typographie vieillotte, ce qui les rendait, heureusement, difficiles, voire impossibles à déchiffrer. Selon toute probabilité, la tendance commença à s'inverser lorsque quelqu'un, peut-être même un descendant du Ferderber qui avait déclenché cette vague de détresse dans le pays, eut l'idée de déverser sa bile dans ses cartes de vœux pour Noël. Il se dit que, puisque personne ne les lisait de toute façon, il pouvait aussi bien écrire ce qu'il ressentait réellement, tant qu'il l'écrivait dans une typographie vieillotte. Il en tirerait au moins une satisfaction personnelle. Ainsi, à proximité du sommet de ces monticules de cartes datées de l'ère début du XXe siècle, on en a découvert plusieurs de cet ordre. On a par exemple l'image d'une guirlande de houx avec un gros marteau planté dedans et la légende suivante. « Meilleurs vœux de rougeole, Noël 1931 ». Une autre montre une petite chaumière nichée au sommet d'une colline enneigée qu'éclaire le soleil couchant, et sur la chaumière, une pancarte où est écrit « À vendre ». Le sentiment exprimé dans les vœux était le suivant. « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté ». Une carte du Nouvel An rehaussée de l'inscription « Meilleurs vœux » en relief était libellée comme suit. « Si je ne vous vois pas en 1933, 1934 sera bien assez tôt pour moi. » Aussitôt que cette mode se mit à prendre, la tendance s'inversa complètement. Les sentiments exprimés, jusqu'alors modérément grinçants, devinrent graduellement de plus en plus agressifs. On a retrouvé une carte datée de 1938 qui disait « En cette veille de Noël, je veux que tu sois conscient que si tu ne déposes pas 50 000 $ dans la boîte 115 avant le nouvel an, je vendrai tes lettres espèce d'escroc au plus offrant. » Une autre, au milieu d'une couronne de gui, portait cette légende fort explicite. « Surveille ta femme. » Il n'y avait plus guère qu'un pas à franchir pour en arriver aux insultes et aux obscénités. Aussi, à ce stade, les ligues de vertu s'interposèrent. Elles menèrent une campagne dans tout le pays qui, à la différence d'autres campagnes de tempérance, reçut le soutien de la majorité de la population. Une année à peine suffit pour convaincre les deux tiers requis du corps législatif fédéral de consentir à voter un amendement à la Constitution interdisant la fabrication et la vente de cartes de vœux. Comme on pouvait s'y attendre, cette loi fut suivie d'une brève période de développement de la contrebande, mais ce marché noir ne suscita jamais de réel enthousiasme et finit à son tour par disparaître. Ce qui précède n'est en fait qu'un bref rappel historique de ce qui a été accompli par le passé afin de préparer le lancement d'une campagne de grande envergure contre la fabrication et la vente de tous les cadeaux de Noël, à l'exception des jouets. Ce que nos pères ont accompli, nous pouvons, nous aussi, l'accomplir.